Bien, merci. Merci à toute l'équipe de louanges. C'est vraiment édifiant. Super. Peut-être un frère pourrait venir, Flaubert. Est-ce que peut-être un frère pourrait venir pour la Jean, pour le trépied, là? Eh bien, on espère que vous allez bien et puis que vous avez passé une belle semaine. On aimerait vous saluer si vous nous visitez ce matin. Alors, bienvenue. Et si vous nous écoutez par Internet, il y a des gens qui nous écoutent et on veut vous saluer, des gens d'un peu partout. Et on est content de, que vous nous écoutiez fidèlement comme ça. Merci. Pour ceux qui viennent se joindre avec nous, on est en train justement dans les quelques dernières semaines, on a commencé une série de à travers une des lettres du Nouveau Testament, c'est 1 Corinthiens. Et puis, de semaine en semaine, on est en train de passer à l'équivalent d'à peu près un chapitre par semaine. Et ça nous permet de voir ce que Dieu dit à travers cette lettre-là. Et à travers des conflits qui s'étaient passés, qui se produisaient dans l'intérieur d'une église qui était assez jeune, juste quelques années. Et puis, on voit comment l'apôtre Paul va répondre à certaines questions qui lui sont adressées par certains membres de l'église. Et à travers ces réponses, il offre, il donne des enseignements sur la volonté de Dieu. Maintenant, au chapitre 8, c'est pas différent. On tombe devant un autre conflit dans l'Église. On se trouve devant une autre situation. Entre certains membres de l'Église, il y avait des conflits à propos d'une question qu'on pourrait appeler les zones grises. Des zones grises vont toujours causer des conflits dans l'Église. Alors, il s'agit des questions qui ne sont pas explicitement dites dans les Écritures. Vous savez, dans les Écritures saintes, vous allez avoir des prescriptions, vous allez avoir des restrictions. Évidemment, vous allez avoir la présentation de Dieu, qui est Dieu. La Bible nous fait connaître Dieu. À travers les Écritures, on veut apprendre comment grandir comme enfant de Dieu, comment ressembler davantage au caractère de Jésus-Christ. Et on veut savoir comment lui agit, qu'est-ce qu'il pense, on veut connaître sa volonté, ce qui lui plaît, ce qui va l'honorer, glorifier. Et à travers les Écritures, tu vas avoir des choses qui sont explicitement dites à l'endroit de certains sujets. Par exemple, il y a des choses qui sont bien claires. La Bible va dire, par exemple, de prier. Alors, ça, c'est clair, ça. On sait ça. La Bible va dire, ne tuez pas, ne mentez pas. Ça, c'est clair dans les Écritures. Paye tes impôts, alors rien en dessous de la table. Honore le gouvernement, respecte. Il y a des choses bien claires dans les Écritures. Mais il y a d'autres éléments, d'autres sujets qui tombent un petit peu dans ce qu'on pourrait appeler des zones grises. Des choses que la Bible ne parle pas directement. Mais ces questions, zones grises, qu'on peut appeler, pour qu'on se comprenne, vont causer parfois des conflits au sein des églises. Parce qu'il va y avoir des pôles, des positions qui vont tirer d'un côté ou d'autre. On va voir une situation comme on ne devrait pas faire cela, on va être convaincu de ça. Et d'autres vont dire, non, il n'y a pas de problème. Et là, tranquillement, on est passionné sur certaines choses. Et là, on va commencer à tirer d'un bord ou de l'autre. Et là, ça crée de la tension. Les zones grises, à travers l'histoire de l'Église, quand vous parcourez l'histoire de l'Église, les zones grises créent des tensions au sein de l'Église. Alors, on va voir ici un des sujets qui causait une zone qu'on peut considérer comme une zone grise. C'est un sujet qui, à première vue, vous allez voir le chapitre et vous allez dire, ça, c'est pas vraiment mon problème. J'ai d'autres combats que celui-là. Et il s'agit des viandes sacrifiées aux idoles. Oui, je sais, ça vous excite pas trop. Je suis certain que cette semaine, quand vous êtes allé faire votre épicerie, quand vous êtes arrivé devant le comptoir des viandes, vous n'avez pas demandé à parler au boucher pour lui demander, moi, j'aimerais savoir ces viandes-là, est-ce qu'elles ont été offertes à des idoles? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a vécu ça cette semaine? Personne. OK, ça marche. Alors, c'est évident qu'à première vue, vous regardez le 1 Corinthiens 8, vous allez dire, ouais, franchement, ça me concerne pas beaucoup. Mais vous allez voir à quel point ça nous concerne, parce que nous avons tous des zones grises. Et on doit réfléchir là-dessus, qu'est-ce qu'on fait. Donc là, la zone grise, c'est une question de viande sacrifiée aux idoles. Pour nous, ça va être autre chose. Alors, tournons dans 1 Corinthiens 8 et on va aller voir ça, ce que les Écritures enseignent à travers cette situation-là, où Paul a dû intervenir, parce qu'il y a des chrétiens de l'Église de Corinthe qui avaient écrit une lettre pour lui demandant comment régler ça. ça, c'était assez gros, ça faisait des conflits, et Paul va intervenir. Juste avant de tourner dans 1 Corinthiens 8, prions le Seigneur. Eh bien, Seigneur, nous voulons te remercier de tout cœur pour ta parole qui nous donne une direction claire. Et même lorsqu'on arrive devant des zones grises, des questions qui sont parfois délicates, et on cherche à te plaire, à t'honorer, même à travers ces zones grises, et on a besoin vraiment de ta sagesse. Et tu nous donnes ta sagesse dans ce chapitre ce matin, et nous voulons que tu puisses nous aider par ton Esprit Saint à pouvoir appliquer ces choses que nous allons voir ce matin, parce que certainement, c'est une œuvre surnaturelle dans les cœurs, qui va bâtir les églises, qui va unir les assemblées, les frères et sœurs. C'est une œuvre miraculeuse et surnaturelle. Donc, que ton Esprit parle à nos cœurs, comme il a fait au premier service, où des gens nous partageaient comment Dieu avait parlé à leur cœur et il te demandait comment rebâtir certaines relations qui étaient perdues depuis un certain temps. Alors, Seigneur, on te demande, nous avons peut-être des gens dans notre vie, dans notre entourage, avec qui nous avons eu des conflits. Et avec le temps, on a pris une distance. Et t'aimerais, Seigneur, ce matin, que nous puissions revenir à toi et que tu puisses nous aider à rebâtir des relations comme ta parole le demande dans ce passage. Aide-nous à voir la richesse de ce passage et mettre en pratique ces choses par la puissance de ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. 1 Corinthiens 8, verset 1. « En ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance rend orgueilleux, mais l'amour édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il ne connaît encore rien comme il faudrait connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, il est connu de lui. Donc, pour ce qui est de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'une idole n'est rien dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. En effet, il est vrai qu'il y a des êtres appelés dieux, soit dans le ciel, soit dans la terre, sur la terre. Et de fait, il y a beaucoup de dieux et de seigneurs. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et pour qui nous vivons, et un seul Seigneur, le Seigneur Jésus, par qui tout existe et par qui nous vivons. Mais tous n'ont pas cette connaissance. Quelques-uns, marqués par la manière dont ils perçoivent encore les idoles, mangent de ces viandes comme leur étant sacrifiées, et leur conscience qui est faible en est souillée. Or, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu, ni si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Veillez toutefois à ce que votre liberté ne devienne un obstacle pour les faibles. En effet, si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idoles, lui qui est faible, ne sera-t-il pas encouragé par sa conscience à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Ainsi, à cause de ta connaissance, le faible ira à sa perte, ce frère pour lequel Christ est mort, en péchant ainsi contre les frères et sœurs et en blessant leur conscience qui est faible, c'est contre Christ que vous péchez. C'est pourquoi, si un aliment représente un piège pour mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas faire trébucher mon frère. Et les viandes sacrifiées aux idoles, ça ne nous touche pas vraiment. Mais vous savez, les chrétiens de l'époque, par exemple, du Nouveau Testament, qui vivaient à Corinthe, vivaient cela à chaque semaine. Quand c'était le temps de faire ta liste d'épicerie, chaque semaine, tu étais confronté avec les viandes sacrifiées aux idoles et tu devais trancher, c'était préoccupant pour les chrétiens parce que tu faisais face à cette réalité-là. C'est une réalité quotidienne à l'époque. Mais même si nous, on n'est pas touchés par les viandes sacrifiées aux idoles, on a plein de situations ici, en 2016, qu'on pourrait appeler les zones grises. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les zones grises vont toujours causer de la tension dans une église. Prenons le style de musique, par exemple, dans l'église. On s'arrête juste là-dessus. S'il y a un sujet susceptible de créer de la controverse dans une église, c'est bien la musique. On a chacun nos préférences, notre style, et ça cause vraiment des problèmes parfois. Quelqu'un a dit, quand on aborde la question du style de musique dans l'Église, on marche sur un terrain rempli de mines. Je ne connais pas d'Église qui n'est pas touchée par le style de musique. James Dobson, qui est fondateur de Focus on the Family, qui a vraiment une émission à travers le monde, vraiment traduit en plusieurs langues, en français on appelle ça Objectif Famille. Et puis, ça fait plusieurs années, il a été plusieurs années avant de se retirer de l'émission, à enseigner sur différents sujets. Alors, il a touché plusieurs sujets et certains sujets étaient très, très controversés. Et voici ce qu'il dit. Il dit, parmi les sujets traités dans ce programme de radio, de l'avortement à la pornographie. Écoutez, c'est des sujets controversés pas mal. Il dit, parmi les sujets traité dans ce programme de radio, de l'avortement à la pornographie, le sujet le plus controversé que nous ayons abordé a été celui de la musique. Le débat sur les styles de musique a polarisé l'attention d'un grand nombre d'églises et les a divisés. Il dit, je suppose que c'est pour cette raison que Charles Spurgeon appelait son ministère de musique le département de la guerre. Et c'est pas nouveau. Vous reculez plus loin, Martin Luther composait un chant à son époque, un classique que nous aimons bien, « Notre Dieu était une forteresse ». Eh bien, Martin Luther a composé ce chant, mais il a emprunté la mélodie d'un chant populaire de son époque. Et ça offusque les gens. Charles Wesley a utilisé plusieurs airs populaires des tavernes de son époque. Jean Calvin, imaginez, on parle de la Réforme. Calvin a engagé deux compositeurs de chansons non chrétiens pour mettre sa théologie en musique. C'est comme mettre des paroles chrétiennes sur une toune de Justin Bieber. Et tu chantes ça à l'église dimanche matin. La reine d'Angleterre était tellement offusquée, elle appelait ça des airs vulgaires. Elle appelle les chants de Calvin les gigues de Genève. C'était des gigues. Hey, est-ce quelqu'un aussi profond et des paroles théologiques comme Jean Calvin? Et c'est des gigues, disait la reine. Vous prenez le chant « Aux douces nuits », un classique. Eh bien, quand ce chant a été publié, certains directeurs de musique, comme George Weber, disaient « Aux douces nuits », ça c'est vide, puis c'est vulgaire. Un autre classique, le Messie de Handel. Quoi de plus classique que ça? Quand c'est sorti, on considérait ce chant-là comme du théâtre vulgaire. Puis on était scandalisés qu'on répète près de 100 fois le mot « Alléluia ». Imaginez « Alléluia » qui veut dire « Loué soit le Seigneur ». On s'offusquait parce qu'on répétait le mot « Alléluia » près de 100 fois. Scandalisé? Et ça n'a pas de bon sens? Savez-vous que l'idée de chanter des hymnes dans l'Église, c'était considéré mondain au début par des chrétiens. Chanter dans l'Église, quel scandale! Un homme du nom de Benjamin Keach, un pasteur baptiste, a osé introduire un chant dans son Église. Les gens disaient, ben voyons donc, chanter dans l'Église, ça n'a pas de bon sens, c'est pas de l'adoration ça. On croyait que chanter des cantiques, c'était pas d'adoration, ça. Ça n'avait pas de bon sens. Il y eut une grosse controverse quand Keach a essayé de faire chanter son Église. Et là, on parle du 17e siècle. Les chrétiens ont finalement accepté de chanter un chant après la Sainte-Cène parce qu'ils disaient, bon, oui, OK, dans la Bible, c'est vrai, on voit ça, c'est correct, on va tolérer ça. Et les gens n'étaient vraiment pas à l'aise. Et encore là, Keith lui-même de dire à son église, écoutez, on va chanter un chant après la Sainte-Cène. Si vous vous sentez pas capable, vous êtes à l'envers avec ça, vous êtes libre de sortir de l'église ce matin. Imaginez, un chant. Des choses qu'on prend pour acquises maintenant, mais c'est un scandale à l'époque. Ça leur a pris 6 ans à Keith avant que son Église accepte de chanter un chant. D'ailleurs, ça leur a pris 14 ans avant que l'Église accepte de voir les chants comme de l'adoration. Mais 22 membres de son église ont quitté pour une église non chanteuse. Mais avec le temps, même l'église non chanteuse a changé son fusil d'épaule et elle cherchait un pasteur. Et dans les critères d'embauche, il fallait que le pasteur croie que chanter dans l'église, c'était de l'adoration. On vient de loin. La musique n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Mais voyez-vous comment ce passage devant nous sur les viandes sacrifiées d'idoles, bon ami, c'est tellement pertinent pour nous autres puis à travers tous les anges. Parce que voyez-vous, ça va au-delà de la viande sacrifiée aux idoles. C'est un exemple de zone grise et comment gérer cela. Voyez-vous, les zones grises vont toujours causer de la tension dans une église. Alors comment rester unis dans l'église parce qu'on veut poursuivre la mission que le Seigneur nous a confiée? Alors qu'on ne s'entend pas dans l'Église sur les zones grises. Comment bâtir des relations avec des gens qui ne pensent pas comme toi? Est-ce qu'on fait? On évite? Est-ce qu'on tolère? Hey, le mot tolérance, c'est toute une affaire, ça. Cette semaine, j'ai entendu justement un chroniqueur, Françoise Boivin, vous connaissez sûrement ici dans la région. Elle a passé une émission de radio cette semaine, vendredi de fait, parce qu'elle parlait d'un sujet. Et elle a vraiment mis en mots ce que je pense depuis un bon petit... En tout cas, ça me fatiguait depuis un bon petit moment, le mot « tolérance ». Vous ne trouvez pas que quand tu parles de tolérance, c'est comme si « je vais te tolérer ». Vas-tu dire quelque chose, ça ne sent pas bon en arrière de ça. Tu sais. « Je vais tolérer ». Vois-tu, cette semaine, à l'émission, François Boivin a passé vendredi, puis elle parlait de toute cette controverse qu'il y a lieu en ce moment avec les évêques catholiques de toute la région du Canada. Et évidemment, ça touche le monde. Et les évêques de l'Ouest du Canada, en ce moment, ont tranché, ils ont même écrit un genre de traité, de 6 pages, je crois, si ma mémoire est bonne, sur la question de l'aide pour mourir. Ils ont tranché, ils ont dit, l'Ouest du Canada, c'est-à-dire Alberta, Vancouver, tout ça, dans l'Ouest canadien, ce qu'on a décidé, on a tranché, on a dit... L'aide à mourir est un péché mortel et de ce fait, on ne fera pas de service funéraire pour ceux qui auront reçu de l'aide à mourir. Maintenant, les évêques, l'archevêque de Montréal et tout ça sont contre cette idée-là et tout ça, puis il y a toute une conférence à Cornwall, pas loin d'ici, pour parler de cette question-là, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, c'est toute une controverse. Mais là où je veux en venir, c'est pas tellement cela... Mais c'est les propos de Françoise Boivin qui s'est mouillée vendredi à donner son opinion. Maintenant, on peut être d'accord ou pas avec ses opinions, mais elle a dit quelque chose de vraiment intéressant et j'ai tendance à penser comme ça aussi. Elle dit, ça prend plus que de la tolérance. Elle dit, moi, je vois de la tolérance, Madame Boivin qui dit ça, moi, je vois de la tolérance. Et c'est à l'émission vendredi, là, que l'Outaouais se lève, 104.7, pour ne pas le nommer. Madame Boivin a dit, moi, je vois ça, là, ça prend plus que la tolérance. Elle dit, moi, je vois la tolérance comme quelqu'un qui est en haut, là, puis regarde les gens en bas et disent, ouais, je vais te tolérer. Vous voyez, ce qu'elle est en train de dire, en fait, c'est qu'elle sent qu'il y a quelque chose d'un peu orgueilleux dans la tolérance. Et ce qu'on va voir, justement, dans ce passage, ce qu'on recherche, en réalité, que des fois, on ne réussit pas à mettre des mots à toucher, Et bon, Mme Boivin a sa théorie là-dessus, mais ce que Paul va faire, voici une situation de zone grise. Voici un conflit. Voici un endroit où on ne s'entend pas. Il y a des déchirements, des blessures et tout ça là-dedans. Paul va nous emmener beaucoup plus loin que la tolérance. On va inventer une expression, faute de mieux. On va appeler ça. Paul nous appelle vraiment à agir avec une grâce bienfaisante. Laissez-moi vous expliquer un peu ce qui se passe ici. Dans ce passage, nous voyons que lorsque Dieu touche un cœur, lorsqu'il change surnaturellement un cœur, cette personne va aller au-delà de la tolérance. Ça va aller bien plus loin. Parce que lorsque l'Évangile entre dans la vie d'une personne et la transforme, cette personne devient réceptive, aimante, compatissante avec les gens qui sont très différents d'eux. C'est bien différent que la tolérance. Et Paul va l'expliquer. La grâce bienfaisante, c'est quoi? On ne parle pas de tolérance, donc. On parle d'une grâce bienfaisante. Regardons ce qui se passe ici. Les chrétiens sont en conflit avec des viandes sacrifiées aux idoles. Regardons ce qui se passe un peu dans le contexte. Aujourd'hui, si tu as besoin du steak, tu vas aller acheter du steak, puis tu vas chez IGA ou Costco et tout ça. Tu ne demanderas pas vraiment au boucher si c'est sacrifié aux idoles. Tu n'auras pas de problème avec ça. Mais dans le temps, si tu étais pris avec ça, parce que c'est un contexte comme ça. Toutes les viandes avaient été soit offertes en sacrifice ou consacrées ou bénies par un prêtre au nom d'une déesse ou d'un dieu des idoles. Toutes les viandes. Il y avait plusieurs dieux dans ce temps-là, des centaines de dieux et tout ça, des idoles. Il y avait 26 lieux de culte à Corinthe. Laissez-moi vous prendre un exemple d'une famille, par exemple. Un gars, par exemple, qui est pêcheur de métier. Il part le matin, quitte sa famille, il s'en va prendre le bateau, puis tout ça, il s'en va pour faire de la pêche, c'est son métier, et il s'en va, et il réussit à prendre une bonne pêche, et il revient, il amarre le bateau, débarque. Alors, ce qu'il va faire, il n'y a pas eu d'accident sur la mer, c'est calme, il y a eu une bonne moisson, il a attrapé pas mal de poissons et tout ça, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller avec sa famille au temple de Poséidon, qui était reconnu pour être le dieu des eaux et des tremblements de terre. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, cet individu-là, ce pêcheur-là? Il va prendre sa famille, il va aller à ce temple-là, il va prendre un animal pour l'offrir en sacrifice à ce dieu-là, en guise de remerciement, d'action de grâce, que la mer était calme, puis il a fait une belle pêche. Donc, il va prendre un animal, va l'offrir en sacrifice. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Des fois, on prenait une portion de la viande et puis on l'offrait effectivement, on le brûlait puis on l'offrait en sacrifice, mais pas toujours. Des fois, tout ce qu'on faisait, c'est qu'on coupait un peu le poil sur la tête de l'animal, on prenait le poil puis on le brûlait et on l'offrait en offrande. Maintenant, qu'est-ce que tu faisais avec cet animal-là? Bien, une partie, dans certains cas, une partie de l'animal était coupée. Bien, premièrement, tu le cuisais. Tu cuisais l'animal. Une partie de la viande était soit offerte à la déesse ou au dieu, dans ce cas-ci, si c'était pas le cas du poil sur la tête et tout ça, tu l'offrais à ces dieux-là. L'autre portion revenait à la famille qui avait offert le sacrifice, mais une bonne partie de l'animal allait au prêtre comme honoraire pour le remercier d'avoir fait ça, d'avoir offert le sacrifice et tout ça. Maintenant, qu'est-ce qui arrive quand tu as des centaines et des centaines d'animaux qui sont offerts? Le prêtre ne peut pas tout manger, là. Puis en plus, il n'y a pas de frigidaire dans ce temps-là. Puis la température ambiante est à peu près 33 Celsius. Donc, tu ne peux pas garder la viande. Alors, ce que tu faisais, tu prenais la viande, et le prêtre prenait la viande, et il s'était ouvert un petit resto collé au temple. On va appeler ça, tiens, dans le cas du temple d'Aphrodite, la déesse de l'amour, on va appeler ça, tiens, chez Aphrodite. Un beau petit restaurant chez Aphrodite. Et là, ce que tu faisais, tu pouvais offrir une partie de cette viande-là et les gens allaient manger de la nourriture pas chère. À côté, tu avais une boucherie, tu avais un magasin où tu pouvais aller acheter cette viande-là qui allait pourrir si tu attendais trop longtemps. Donc, ils faisaient des prix vraiment bon marché, au prix du gros. C'est vraiment pas cher. Alors là, les gens pouvaient aller là puis acheter leur viande à bon marché. D'accord? Mais là, c'est pas tout ça. Donc, une bonne partie de la viande dans la ville avait été offerte en sacrifice à des dieux et à des déesses, mais pas toutes les viandes. Mais voici ce qui circulait dans le temps. Il y avait une superstition qui disait, on croyait premièrement avec un paquet de dieux, on croyait une tonne, une panoplie de dieux. Alors, ce qu'on croyait, c'est qu'il y avait des esprits bons et méchants qui entraient et sortaient du monde régulièrement. Ça rentrait puis ça sortait comme ça, là, régulièrement. Et tu avais des démons, des mauvais esprits qui rentraient dans le monde, sortaient, rentraient. Et lorsque des mauvais esprits rentraient dans le monde, ils se déposaient sur une chose ou sur un animal. Et ça arrivait donc que on croyait que des démons et des esprits méchants s'installent sur des animaux. Alors, imagine la pensée, si par malheur, tu viens qu'à manger de la nourriture sur laquelle il y a des démons, tu es en train de manger des démons et en conséquence, tu étais possédé des démons. Alors, ce qu'on a commencé à faire, on a demandé aux prêtres de consacrer et de bénir toute la bouffe dans la ville au nom des dieux où servait le prêtre. Donc, dans la ville de Corinthe, toute la viande était soit offerte en sacrifice à un dieu, à une déesse, ou elle était consacrée et bénie au nom, par un prêtre, au nom d'un dieu, d'une idole. Tu étais donc pris avec ça, ça saturait la ville. À tous les jours, tu devais composer avec cette réalité-là. Maintenant, imagine que tu te trouves, que tu es soit un prêtre ou un autre bonhomme ou une femme qui est impliqué là-dedans, tu fais ça, tu offres des sacrifices, et ça fait des années que tu fais ça, tu crois à tout ça, et un jour, un collègue de travail vient te parler de Jésus-Christ. Et là, quelqu'un vient te parler de Jésus, et tu écoutes le message de Jésus-Christ, et là, tu places ta foi en Jésus, tu deviens une personne née de nouveau, un enfant de Dieu, et là, tu donnes ta vie au Seigneur Jésus. Tu commences à aller à l'église, etc. Puis là, tu découvres la foi chrétienne et tu grandis. Cette personne-là, finalement, ne remettra pas les pieds dans ces temples-là, puis prend l'engagement, et dit, moi, je ne remets plus là-dedans. Ça, c'est son ancienne vie. Ça le trouble, tout ça. Il était là-dedans. Il était impliqué dans tout ça. Il était peut-être même prêtre, puis le prêtre s'est converti. On apprend ça qu'il y a des prêtres qui se sont convertis. Et imagine-toi, là, t'étais là-dedans, là. Et tu sors de ça, tu dis, moi, plus jamais, je ne vais plus rien savoir de ça. Un jour, je ne sais pas si tu connais Richard. Non, tu ne peux pas connaître Richard, c'est un gars qui vit à Corinthe il y a 2000 ans. Et là, Richard est là, puis c'est un de ceux qui s'est converti à tout ça. Il s'est sorti de ça, puis il dit, je ne veux plus rien savoir de ça. Mais là, il est pris un peu, parce que chaque matin, il doit passer devant le temple d'Aphrodite. Parce qu'il faut aller travailler. Alors, il passe devant là où il allait avant, dans son ancienne vie. Puis ça, ah, mon ami, à chaque fois qu'il passe là, il est comme, il dit, j'étais là-dedans, puis je sors de ça, moi, je ne veux plus rien savoir de ça. Mais là, il passe devant ça, là. Mais là, il regarde le temple, juste à côté du temple, il y a un petit resto, ça s'appelle chez Aphrodite. Et puis, là, il regarde comme il faut, puis il regarde dans le restaurant, puis qui c'est qu'il voit-tu pas, Richard? Il voit Gilles. Maintenant, Gilles, c'est son responsable de groupe maison. Là, il regarde et il dit, qu'est-ce qu'il fait là? Là, Richard s'aperçoit que Gilles était allé au spécial du lundi. C'est un spécial à 5 heures, côte levée à volonté. Et là, il est scandalisé parce qu'il voit Gilles dans ce resto-là d'idoles où des viandes ont été sacrifiées aux idoles. Ah, il est scandalisé. Il n'en revient pas. Il dit, attends que je parle à Gilles, mercredi soir, à la réunion du groupe maison. Ça marche pas. Je ne peux pas concevoir qu'un chrétien aille là. Alors, c'est mercredi soir. Il y avait à tuer out. Il a tout pensé à sa façon de parler. Puis ça, il est scandalisé, t'es à l'envers. Alors, mercredi soir, Gilles est là. C'est celui qui dirige le groupe maison. Et tout d'un coup, la réunion commence à la maison. Puis là, Gilles pose la question. Il dit, est-ce qu'il y en a qui aimeraient partager quelque chose? Avez-vous un témoignage? Avez-vous des questions? Puis tout ça, je donne l'occasion de parler. Eh bien là, Richard, mon ami, était-tu prêt? Puis il dit, hey, Gilles, je t'ai vu lundi soir. Je t'ai vu au temple. Je t'ai vu au restaurant, là, chez Aphrodite. Tu étais en train de manger de la viande qui a été sacrifiée aux idoles. Gilles dit, puis, qu'est-ce que ça fait, ça? Ben non, mais ça n'a pas de bon sens. Des idoles, c'est affaire à des dieux. Tu ne devrais pas faire ça. Un chrétien ne devrait jamais faire ça. Ça n'a pas de bon sens. Et là, Gilles dit, ben voyons donc, les idoles, c'est bien, c'est pas vrai, c'est des bouts de bois, puis tout ça, c'est des images. Il n'y a pas de réalité spirituelle derrière ça. Il n'y a pas de problème. C'est bien, il y a juste un seul Dieu qui est vivant. Tout ça, c'est de la foutaise, ça. Tu le sais, maintenant, tu es un chrétien, tu devrais savoir ça. Ah, ben, hey, il est scandalisé. Il dit, ben non, je te le dis, tu n'as rien qu'à remercier le Seigneur pour ta nourriture, pour ta bouffe, puis c'est assez, c'est en masse. Toi, quand tu me prends la tête. Là, Richard est là, c'est vrai? Oh, je te dis, moi, ça fait des années que je suis chrétien, je n'ai pas de problème. Ouais, moi, je connais ça. Moi, je connais la parole de Dieu. Quoi, ça fait des années que je suis chrétien. Fais-toi-en même pas avec ça. Viens-t'en avec moi, tu vois, lundi, il y a un bon spécial. La semaine prochaine, tu devrais écouter la sauce. Hey, c'était incroyable. Viens-t'en, lundi soir. J'avais vraiment. C'est correct d'aller là, t'es sûr, là? Ouais, viens-t'en, il n'y a aucun problème. Fait qu'il l'emmène le lundi soir, manger là. Mais là, Richard mange, puis effectivement, c'est bon, tout ça. Il s'entend chez eux, il est allé en verre. À l'envers, parce que dans sa tête, là, il n'est pas vraiment pas rendu là. Dans sa tête, là, il dit, non, ça c'est péché, j'ai péché contre Dieu. Il se met à genoux, il se sent coupable, il se sent tout croche. Il demande même à Dieu, Seigneur, est-ce que j'ai perdu mon salut? Est-ce que je suis encore sauvé? Ça n'a pas de bon sens agir comme ça, comme chrétien. Tu sais, je ne suis pas un chrétien. Moi, vraiment, il me semble que chrétien, ça ne vit pas de même. Et là, il est en l'envers. Là, il parle de ça à Gilles, puis Gilles, il dit, écoute, c'est évident là, qu'on ne s'entend pas, tu vois, ce qu'on va faire, on va écrire une lettre à Paul, on va lui demander, c'est lui qui a bâti l'Église, c'est lui qui a commencé l'Église, au début, c'est le fondateur, fait qu'on va lui écrire une lettre, puis on va lui demander, ouais, tu vois, il va voir comme moi. Il va voir comme moi, voyons, tu sais, il n'y a pas de problème, là, je te le dis, moi, ça fait des années que je suis chrétien, tu n'auras pas de problème. Fait qu'on va écrire à Paul, mais juste te rassurer, on va écrire à Paul, puis Paul, tu vois, va dire la même chose que moi. Ah, ça, c'est une bonne idée, on va écrire à Paul. Alors, il écrit l'apôtre Paul. Pose la question, est-ce que tu en penses, Paul? Paul répond. Puis, Paul va répondre à cette question-là, puis il dit, écoutez, il va parler aux deux groupes. Il va parler aux chrétiens matures, c'est-à-dire aux gens qui ont plus d'années dans le Seigneur, puis il va parler à d'autres groupes qu'il va appeler des chrétiens faibles. Mais dans le fond, au bout de ligne, quand tu commences à lire puis comprendre tout ce qui est dit, les deux sont faibles. Les deux ne sont certainement pas rendus où ils devraient être rendus. Parce que la maturité chrétienne va user de grâce bienveillante envers les autres. Et Paul va expliquer ce que c'est. Premièrement, il dit, la grâce bienveillante prend soin des autres. Elle ne tire pas la couverture de son bord pour dire, tu as raison, etc. Non, non, la grâce bienveillante prend soin des autres, car elle est motivée par l'amour. Regarde le verset 1, il dit, en ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous de la connaissance. Bien, la connaissance rend orgueilleux, mais l'amour édifie. Le mot original pour édifier, pensez à édifice. Puis quand tu penses à un édifice, tu penses quoi? Construction. Projet de construction ici. Là. On est en train d'édifier la bâtisse ici. C'est de la construction. Et ce que Paul est en train de dire, c'est que lorsque tu uses de grâce bienveillante, tu vas aller plus loin que juste la connaissance, tu vas te soucier de l'autre, tu vas entrer dans son monde, tu vas t'investir dans sa vie pour essayer de comprendre comment il pense, qu'est-ce qu'il pense, et tranquillement, tu vas lui faire du bien, tu vas prendre soin de lui. Tu vas, en d'autres mots, tu vas t'investir dans sa vie. L'amour, c'est ça qu'elle fait. Elle va plus loin que tolérer. Puis elle va plus loin que juste connaître. La connaissance est majeure, c'est important, et il le dit. Mais ça va aller plus loin. L'amour édifie. Agis avec amour et tu vas pouvoir construire les autres. C'est ça que l'amour fait. Investis-toi dans la vie des autres. Lorsqu'on a un différent avec les autres, qu'est-ce qu'on fait? On a tendance à s'éloigner. On va trouver un camp de personnes qui pensent comme nous autres, exactement comme nous autres. On va se tenir là-dedans avec ces gens-là et on va mettre des mesures protectionnistes autour, là, puis on ne veut pas trop que ça rentre là-dedans et tout ça. Puis, parce qu'il y a des gens dans l'Église qui ne pensent pas comme nous autres. On n'est pas bien avec eux autres. On va chercher à fuir. Paul est en train de dire, vois-tu, la connaissance, ça enfle, mais l'amour, c'est pas ça qu'elle va faire. L'amour va casser ces barrières-là et tu vas t'investir dans la vie des autres, même s'ils ne pensent pas comme toi. Paul dit aux chrétiens mûrs, votre théologie est bonne, là. Ce que vous croyez, c'est correct. Votre connaissance est bonne et c'est essentiel d'avoir la connaissance. Il le dit d'ailleurs, il dit au verset 5, en effet, il est vrai qu'il y a des êtres appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre. Et de fait, il y a beaucoup de dieux et de seigneurs. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous vivons. Un seul Seigneur, Jésus-Christ, par tout existe et par qui nous vivons. Mais l'amour ne se limite pas juste à la connaissance. Elle va aller plus loin. Elle édifie, elle construit l'autre. Elle va prendre le temps, elle va faire de l'espace dans son horaire, dans sa vie, pour s'investir, pour entrer et laisser l'autre entrer dans sa vie, pour essayer de bâtir l'autre. Elle ne pense pas juste à avoir raison, à défendre ses droits, à user, à suggérer un tas d'excuses et de raisons comme quoi que nous sommes maintenant libres en Jésus, on peut faire ce qu'on veut, tout ça. Ça, c'est faux. L'amour ne fait pas ça. Il va chercher à édifier l'autre. Deuxièmement, la grâce bienveillante agit avec humilité, car elle sait qu'elle est limitée dans sa connaissance du grand Dieu. Dieu est tellement grand, infiniment sage, qu'on ne connaît pas grand-chose sur Dieu encore. C'est beau avoir des années dans le Seigneur, on ne connaît pas grand-chose. On connaît vraiment une infime partie de qui est Dieu. On va passer l'éternité à étudier qui est Dieu. Verset 2 dit, si quelqu'un croit savoir quelque chose, il ne connaît encore rien comme il faudrait connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, il est connu de lui. Paul dit aux chrétiens forts, tu penses vraiment que tu es au-dessus de tes affaires, mais tu n'as rien vu encore. Tu ne connais pas tant que ça. Tu ne connais pas autant que tu penses connaître. Dieu est infiniment grand. Connaissez-vous des gens comme ça? Des gens qui pensent toujours avoir raison, tu leur parles, puis ils sont là, puis ils détectent les erreurs, puis tout ça, de ce que tu dis, puis tout de suite, ils se font un plaisir de te reprendre, puis ils disent non, c'est pas ça, puis ils corrigent. Il me semble qu'ils passent leur vie à corriger les gens. Ils ont toujours les réponses, ils ont toujours, les autres, ils l'ont l'affaire. Hein? Moi, je me rappelle M. Keefe me dit quelque chose. Il était beaucoup plus jeune dans le temps, puis je le reconnais, là, je pense que ça s'adressait à moi dans le temps. Ça m'a pris un service pour le reconnaître. Je n'étais pas là encore au premier service, mais là, je le reconnais. Là, je sais, M. Keefe, dans le fond, je pense qu'il me parlait à moi. Là. Il dit, tu sais, normalement, puis il n'y a pas d'insulte aux jeunes ici. Là. Pas d'insulte. Tu sais, il dit, écoute, je connais un paquet de jeunes, ça va être brillant et tout ça. Ça n'a rien à voir. Là. Il parle d'attitude. Et il me dit ceci, d'accord? Il dit, tu sais, normalement, lorsque j'étais plus jeune, j'avais plus de réponses. Lorsque j'étais plus jeune, j'avais plus de réponses. Et je regarde dans ma vie, moi, là, lorsque mes premières années de mariage, et je dois avouer que souvent, on a eu des chicanes, puis je tirais à couverte parce que j'étais convaincu que j'avais raison, puis je me battais là physiquement, là, mais là, je défendais mes points avec beaucoup de zèle puis de passion, là, parce que moi, j'étais convaincu d'avoir raison. J'avais des réponses. Là, les années ont passé. Puis, sais-tu quoi? Dites-les pas à ma femme. Mais des années passent. Et là, aujourd'hui, je regarde en arrière, je dis, hé, mon amie, elle avait raison. Hein? 30 ans après, tu es là, puis tu dis, aïe, aïe, tout ce temps-là, moi, je dis pas, là, mais tout ce temps-là, pendant 30 ans, j'étais dans le champ, puis elle avait raison. Vois-tu, Paul est en train de dire, la grâce bienveillante va agir avec humilité, parce qu'elle est bien consciente qu'elle ne sait pas tout. Tu peux te tromper. Tu es convaincu que tu as raison. Tu vas te battre pour tes points, mais laisse-moi te dire, tu as peut-être tort. C'est possible que tu te trompes. Et surtout quand ce qui concerne les Écritures saintes, parce que Dieu est tellement grand. Tellement infiniment grand. L'humilité, c'est qu'il reste quelque chose à apprendre. L'humilité est bien consciente. On ne sait pas grand-chose. On pense savoir beaucoup, mais finalement, on ne sait peut-être pas grand-chose. Alors, celui qui est vraiment humble a le sentiment de ce qui lui reste encore à apprendre. Paul dit, tu crois savoir quelque chose? En fait, tu ne connais pas vraiment grand-chose. Parce que personne dans le monde connaît vraiment comme il devrait connaître la vérité de Dieu. Tellement profond, tellement riche, personne n'est rendu à la place qu'elle maîtrise tout, elle connaît tout. Juste Dieu connaît tout. Celui qui est vraiment humble sait qu'elle a bien des choses à apprendre encore. D'ailleurs, tu regardes des gens qui ont plusieurs années dans le Seigneur, qui ont été bien consacrés toute leur vie dans le Seigneur. Quand je dis toute leur vie, depuis qu'ils sont chrétiens, 10 ans, 20 ans, 30 ans, très consacrés, des M. Bacon et d'autres, et des Mme Phillips et tout ça. Tu t'assois à côté, tu les écoutes parler, c'est incroyable de voir la beauté de l'humilité. Elle pourrait t'en enseigner puis t'en montrer des affaires, mais non, c'est comme, il y a une humilité qui est là. Faut presque que tu tires les verres du nez là, pour qu'elle elle t'explique quelque chose. Elle est très, très, très humble, très discrète à révéler ses exploits. C'est beau, cette humilité-là. Quelqu'un a défini la connaissance comme c'est le passage de l'ignorance inconsciente à l'ignorance consciente. Tu es conscient que tu es ignorant, c'est ça la différence. Ah, là, tu as appris quelque chose. Vois-tu? Le passage de l'ignorance inconsciente à l'ignorance consciente. L'ignorance, dit quelqu'un, ne sait pas qu'elle ne sait pas. D'accord? Ça, c'est l'ignorance. Tu ne sais pas que tu ne sais pas. La véritable connaissance ne sait pas, mais sait qu'elle ne sait pas. Paul continue, si quelqu'un aime Dieu, il est connu de lui. Alors, il est impossible de connaître Dieu et de ne pas l'aimer. Et cet amour-là va t'affecter dans tes relations avec les autres. Tu vas commencer à aimer les autres, c'est sûr. En d'autres mots, Paul soutient ici que si quelqu'un aime Dieu et qu'il est aimé de lui, il va aimer aussi les autres croyants que Dieu aime. L'amour, c'est la clé de la conduite. Savoir ce qui n'est pas interdit, ce n'est pas suffisant. L'amour va plus loin que ça. Elle use de grâce bienveillante. L'amour limite la liberté chrétienne. Par choix, par amour. La grâce, troisièmement, la grâce bienveillante agit en se rappelant que nous avons tous le même Seigneur. Verset 6 dit, « Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. » Nous, là, les enfants de Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous vivons, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous vivons. Nous vivons par grâce, nous avons été justifiés par la grâce de Dieu. Réalise que si tu as été sauvé, ce n'est pas parce que tu étais ultra bon et tu as impressionné Dieu. Tu es sauvé, tu es né de nouveau uniquement par la grâce de Dieu. C'est une miséricorde que Dieu t'a faite. Et ça devrait t'influencer, t'inspirer dans ton attitude à l'endroit des autres personnes autour de toi dans l'Église qui ne sont pas d'accord avec toi. Jésus est mort pour toi et il est mort pour lui et pour elle. Et ça, Paul est en train de faire une déclaration pas mal forte ici. En fait, il va prendre mot à mot ce que les Juifs appellent le Shema. Le Shema, les Juifs, même jusqu'à aujourd'hui, là, le matin, le soir, vont faire une déclaration. Ce n'est pas une prière, c'est une confession de foi. Mon père faisait ça tous les matins, tous les soirs. Les Juifs sont tenus de réciter en se levant. Tu te réveilles, tu vas réciter le Shema. Finalement, c'est une déclaration de foi, un credo qui est inspiré de Deutéronome 6, qui dit « Il n'y a qu'un seul Dieu ». Et ça, les Juifs ont été vraiment uniques, ce qu'on appelle monothéistes. On croit en seulement un seul Dieu. Et les chrétiens aussi, c'est pareil. On croit seulement à un Dieu. Et c'était phénoménal. Ça a été même bousculé et méprisé par les Romains, parce que les Romains disaient même que les chrétiens, les Juifs, tout ça, sont athées. Imaginez, les chrétiens, on se faisait appeler des athées. On n'a pas de Dieu, nous autres, parce qu'ils ne voyaient pas des idoles. On ne se mettait pas à genoux devant une chose, un objet, une statue pour la louer, la prier, l'invoquer, invoquer sa bénédiction. Alors, parce qu'on ne voyait pas notre Dieu, n'oublions pas qu'à Corinthe, il y avait, mon ami, il y avait plein d'idoles et tout ça. Parce qu'on ne voyait pas le Dieu des chrétiens, il était invisible, on disait qu'ils étaient athées. Paul fait une déclaration très forte ici, parce que n'importe quel juif aurait vu ce que Paul est en train de faire, parce qu'il reprend mot à mot le schéma que les juifs récitaient tous les matins et tous les soirs, tiré de Deutéronome, mais voici ce qu'il ajoute. Il dit, il n'y a qu'un seul Dieu, un seul, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, de qui sont toutes choses, qui donne la vie. On a la vie grâce à Jésus. En d'autres mots, il transforme le schéma juif et c'est le schéma évangélique. Et finalement, Paul est en train de dire, voilà la découverte qu'on a eue, la révélation de Dieu. C'est que ce Dieu-là de l'Ancien Testament, finalement, était un Dieu en trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il est en train de faire une déclaration très choc ici. Les Juifs l'auraient très bien compris. Pour nous, on lit ça, puis d'accord, il y a un seul Dieu et tout ça, mais pour les Juifs, tout de suite, ça, il y a une cloche qui aurait sonné, puis ça rappelle finalement ce schéma. Nous, nous croyons en Dieu, un seul Dieu vivant. Les idoles, il n'y en a pas d'autre Dieu, il n'y en a qu'un seul. Et un seul Seigneur, le Seigneur Jésus, de qui sont toutes choses, de qui nous avons la vie. Tous ne sont pas encore rendus là. Paul ajoute au verset 7. Mais tous n'ont pas cette connaissance. Ils sont en train d'examiner, de grandir et tout ça, mais ils ne sont pas rendus là. Certaines personnes de l'assemblée de Corinthe étaient encore à l'endroit où il y avait que les idoles pouvaient toucher, maudire et tout ça. Ils avaient ces convictions-là, croche, tout croche, mais qu'il y avait ces réalités spirituelles derrière les aliments et tout ça, et ils étaient à l'envers devant ça, et en l'incitant à manger des viandes sacrifiées aux idoles, ils étaient en train de violer leur conscience, où ils étaient rendus à ça. Et Paul est en train de dire, tu es en train de faire tomber vraiment d'autres personnes qui ne sont pas rendues là, des chrétiens qui appellent les chrétiens faibles. Alors, quatrièmement, la grâce bienveillante limite sa nouvelle liberté en Jésus et agit comme un serviteur. Verset 7. Mais tous n'ont pas cette connaissance. Quelques-uns, marqués par la manière dont ils perçoivent encore les idoles, mangent de ces viandes comme leur étant sacrifiées. Et leur conscience, qui est faible, en est souillée. Alors, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si on n'en mange pas, rien de moins. Veillez, verset 9. Toutefois, est-ce que votre liberté ne devienne pas un obstacle pour les faibles? Ce que Paul est en train de faire ici, est en train de dire, regarde, la grâce bienveillante agit comme un humble serviteur. Et qu'est-ce qu'on fait? Tu vas limiter ta liberté. Oui, tu enseignes la vérité de Dieu. Alors, la connaissance est importante, tu ne mets pas ça de côté. La connaissance, c'est majeur, il le fait, il le dit, il déclare la vérité. Mais en même temps, alors tu enseignes, tu partages à d'autres, tu enseignes, tu prends le temps d'enseigner, ouvrir les Écritures avec un cœur humble. Deuxièmement, tu cherches à ne pas être une pierre d'achoppement pour les autres chrétiens. Tu fais attention, tu veux être sensible aux autres. Et tu limites, trois, ta nouvelle liberté en Jésus pour ne pas offenser les chrétiens autour de toi, qui ne sont pas rendus là. Tu ne les forces pas, tu es sensible parce qu'ils ne sont pas rendus là et tu veux les accompagner. En d'autres mots, tu te places à côté des frères et sœurs et tu marches avec eux à leur rythme et tu avances tranquillement avec eux. Tu rentres dans leur monde, tu essaies de comprendre où ils en sont, pourquoi ils sont rendus là, comment ils voient leurs convictions et tranquillement tu chemines avec beaucoup de sensibilité et d'humilité pour les aider à grandir dans le Seigneur. Tu agis comme un serviteur. Tu ne forces pas les choses. Un chrétien est celui qui dit « Je suis spécial et je suis aimé parce que lorsque moi-même j'étais loin de Dieu, Jésus est venu, il est entré dans mon monde à moi, il est entré dans mes faiblesses, il est entré dans ma chair, il n'a pas entendu que je crois, il n'a pas entendu que je devienne chrétien, il est venu, il s'est incarné, il a pris la forme d'un serviteur, il a fait de la place dans sa vie pour venir dans mon monde et me faire du bien. Il s'est livré à la croix pour moi, il a ajusté sa vie pour moi, il s'est taillé une place pour moi. » Alors si tu es chrétien, voici comment savoir que tu es un être aimé. Regarde jusqu'où Jésus est allé. Et en même temps, cela va affecter ta relation avec les autres. Si Dieu, si Jésus a fait ça pour toi, combien plus forte raison toi-même devrais avoir cette attitude-là envers les autres. Toute ta vie tourne autour du fait que Jésus s'est ouvert à toi quand toi tu te trompais et quand toi tu étais royalement dans l'erreur. Tu étais royalement dans le champ avant de connaître Jésus-Christ. Et pourtant, Jésus est venu ici parce qu'il t'aimait. Même quand tu croyais à l'erreur. Alors, comment allons-nous traiter les uns les autres qui ne croient pas correctement et qui commettent des erreurs? Quand tu t'étais royalement trompé, lorsque tu étais totalement en dehors de la vérité, complètement en dehors de la volonté de Dieu, Jésus est venu pour toi. Il est entré dans ce monde et il a voulu avoir une relation avec toi. Et ça revient à ce passage dans Romains 5 qui dit ceci, « Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions encore des pécheurs, des ennemis de Dieu. Christ est mort pour nous. » Vois-tu, l'ultime exemple de la grâce bienveillante se trouve sur la croix. Tu as juste à te tourner vers la croix, tu vas avoir un modèle à tous les jours. Tu manques de discernement, comment agir les uns avec les autres, les frères, des situations compliquées, délicates, retourne à la croix. Regarde à la croix, tu as l'exemple sublime de la grâce bienveillante. Elle a été démontrée à ton égard. En méditant sur cet amour, en voyant que tu as été accepté par Dieu parce que Jésus s'est rendu vulnérable pour toi, tu peux maintenant entrer en relation avec d'autres, avec cette attitude. Ton attitude va être complètement différente. À mesure que tu vas méditer la beauté de la croix et du sacrifice de Jésus, ça va attendrir ton cœur à l'endroit des gens qui ne pensent pas comme toi. Alors, tu peux dire maintenant, oui, je vais t'accepter. Je vais t'accueillir. Tu n'as pas besoin de faire exactement comme moi je fais ou comment j'agis. Tu peux être en désaccord avec moi. Mais je vais t'accueillir comme Jésus m'a accueilli. Amen. Alors, agissons avec grâce bienveillante, car nous avons l'exemple ultime de la grâce bienveillante sur la croix. Prions le Seigneur. Eh bien, Seigneur, ce matin, je réalise que nous pouvons avoir des conflits les uns avec les autres. Il y a certaines personnes peut-être qui, en ce moment même, vivent des conflits avec d'autres frères ou d'autres sœurs. Peut-être avec un père, une mère. Et nous avons besoin de nous rappeler de Jésus. Fais une œuvre, Seigneur, dans nos vies. Peut-être qu'il y a des gens qu'on a besoin de rappeler, qu'on a peut-être besoin de tendre la main à nouveau envers quelqu'un envers qui on avait un froid et qu'on avait pris une distance. On te prie, Seigneur, que ton esprit accomplisse cette œuvre en nous, cette œuvre surnaturelle, de cette grâce bienveillante. Aide-nous, entre frères et sœurs, que lorsque même on arrive à des sujets controversés, sur lesquels on ne s'entend peut-être pas, Seigneur, aide-nous à nous rappeler d'agir avec grâce bienveillante, comme Jésus l'a fait envers nous, pour ta gloire. Amen. Eh bien, nous voulons justement retourner à la croix ce matin, alors qu'on veut prendre la Sainte-Cène ensemble, et j'inviterai les frères qui ont été affectés à distribuer ces éléments, de venir en avant et distribuer les éléments. Et je vous invite, si vous avez passé par la nouvelle naissance et baptisé par immersion, je vous encourage, comme Jésus le demande, à prendre part à la Sainte-Cène.
On va chanter ensemble alors que les éléments sont distribués.
Blanc que la
Bien, le Seigneur a donné du pain à ses disciples, ce fameux jour très solennel où il était réuni autour de ses disciples. Et il donne du pain et du vin à ses disciples et dit, ceci est mon corps. Le pain représente mon corps qui a été livré sur la croix pour effacer vos péchés. Prends vos péchés sur moi. Il a payé pour toutes les fautes qu'on a faites. Il a payé pour nous rétablir à Dieu, pour nous réconcilier à Dieu. Alors, ce matin, nous voulons prendre ce pain et cette coupe en mémoire de Jésus. Et il a donné ce pain et cette coupe qui représente son sang qu'il a versé sur la croix. Alors, prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce pain et cette coupe. Et tu n'as pas voulu qu'on oublie ton grand amour qui s'est manifesté à la croix. Tu as voulu que l'on prenne la Sainte Cène pour qu'on se rappelle constamment la preuve de ton amour, cette évidence de ton amour. Et Seigneur, on veut te remercier. On ne mérite pas, Seigneur, tes dons, ta bonté qui se renouvelle chaque matin, tes grâces et ta miséricorde. Mais on veut te remercier, Seigneur, pour tes grandes bontés. On te remercie pour ce pain et cette coupe qui nous donne à penser à ce grand sacrifice qui a eu lieu il y a 2000 ans. Pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Amen. Mangeons, buvons.